Les grands titres de ce jeudi 19 janvier. Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Mike Bird, se retire de la vie politique. Au Mali, le groupe terroriste Al Mourabitoun a revendiqué l'attaque du camp de Gao qui a fait une soixantaine de morts. Et le président américain Barack Obama a donné sa dernière conférence de presse en tant que chef d'État. Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Mike Bird, a annoncé sa démission ce matin, citant des raisons familiales. Il quittera le Parlement la semaine prochaine. Il a dit avoir mûrement réfléchi à cette décision au cours des dernières semaines. La mère de Mike Bird souffre de dystrophie musculaire, son père est en train de se remettre d'une chirurgie cardiaque et sa sœur a un cancer.
There is a strong personal cost that comes in public life. And I probably felt that more than any other time in the past few months. My father and my mother and my sister are going through very serious health challenges. And to be honest, at times I have been in pain and not being able to spend the time that I should.
Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Mike Baird. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull a remercié Mike Baird pour son travail, le félicitant d'avoir réussi à restaurer les finances de l'État et développer son infrastructure.
You've opened your heart and explained why you are retiring all too soon. We understand that. And I want to wish you, on behalf of myself and Lucy, you and Karen and all your family, the very best and the greatest success in the years ahead.
Le premier ministre australien, Malcolm Turnbull. Le leader de l'opposition fédérale, Bill Shorten, a dit que la démission de Mike Baird est une mauvaise nouvelle pour les libéraux de Nouvelle-Galles du Sud.
I think it's fair to say, and most people would agree with me, that Mr. Baird was probably the most talented Liberal at the state level in New South Wales. So the Liberal Party today in New South Wales is a much more diminished political party than it was yesterday. I suspect this has implications for Mr. Turnbull's support in New South Wales as well. But I'd like to finish where I start. I wish Mike Baird well, and no doubt the Liberal Party will be regretting his departure.
Le leader de l'opposition fédérale, Bill Shorten. Le taux de chômage a monté de 0,1% au pays le mois dernier pour atteindre 5,8%. Le nombre d'emplois à temps plein créé a toutefois augmenté de 9 300 et à temps partiel de 4 200. La petite hausse du taux de chômage s'explique par l'augmentation du taux de participation, qui comprend ceux qui ont un emploi et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. En Nouvelle-Galles du Sud, les températures douces et les vents faibles devraient donner un peu de répit aux pompiers qui combattent les feux de brousse. Hier, des avertissements ont été donnés pour des feux près de Cessnock dans la région Hunter, qui s'approchaient dangereusement d'habitations. Heureusement, aucune habitation n'aurait été détruite par le feu, seulement quelques hangars et petits édifices de rangement. Passons à l'international maintenant, d'abord en Afrique de l'Ouest, où des troupes de plusieurs pays se préparent à intervenir en Gambie si le président Yahya Jammeh refuse de laisser sa place à son successeur Adama Barrow. L'état de la situation avec Guillaume Thibault.
Téléphone coupé au sein de l'équipe d'Adama Barrow, aucune information dans les ambassades depuis 2 jours et à la veille de l'événement, le plus grand secret entoure cette investiture. Seule confirmation, l'idée d'organiser la cérémonie au stade de Banjul est mise de côté, impossible notamment pour des raisons de sécurité. Adama Barrow pourra-t-il d'ailleurs se rendre sur le territoire gambien comme l'impose la Constitution? La CEDEAO va-t-elle mettre en place un dispositif de sécurité de déplacement depuis Dakar où se trouve le futur président? Autant de questions posées et des hypothèses. L'utilisation d'une ambassade, d'une maison enclave de la Gambie est évoquée, mais cela serait aussi un signe de faiblesse, remarque un diplomate basé dans la sous-région. Ce silence, cette discrétion, semble en tout cas la meilleure arme pour éviter tout mauvais coup de Yahya Jammeh. Le président qui continue, lui, de jouer ses cartes, d'utiliser la constitution pour se maintenir au pouvoir. Yahya Jammeh a imposé l'état d'urgence hier soir pour 7 jours. Le vote du Parlement le prolonge à 90 jours, mais cette décision de l'Assemblée, qui est aux mains de l'homme fort de Banjul, prolonge aussi, indique la constitution, de 3 mois, le mandat présidentiel de Yahya Jammeh.
Guillaume Thibault pour Radio France Internationale. Au Mali, le groupe terroriste Al Mourabitoun revendique l'attentat du camp de Gao qui a fait une soixantaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Ce camp au nord du Mali regroupait militaires et combattants issus du groupe signataire de l'accord de paix d'Alger de 2015. Les précisions de Pierre Pinto.
C'est par le biais d'un de ses canaux de transmission habituels, le site d'information mauritanien Al-Akbar, que le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda revendique l'attentat du camp de Gao. Al-Morabitoun avait notamment revendiqué l'attaque du Radisson de Bamako, qui avait fait 27 morts en novembre 2015. Les djihadistes ont toujours clamé leur hostilité à l'accord de paix de 2015 sur le Nord Mali, et la cible, ce mercredi, ce camp est le symbole de l'application de cet accord. Situé à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Gao, il regroupe 600 hommes, militaires, combattants issus de l'ex-rébellion ou de groupes armés pro-gouvernementaux y cohabitent et s'apprêtaient prochainement à mener des patrouilles conjointes en vertu de cet accord de paix. Ce mercredi matin, avant 9h, au volant d'un véhicule aux couleurs du mécanisme opérationnel de coordination chargé d'organiser ces patrouilles conjointes, le kamikaze a forcé l'entrée, écrasant les deux gardes en faction pour foncer vers le centre du camp. C'est là que deux sections étaient regroupées, qu'il a fait exploser sa charge. Le bilan est extrêmement lourd, c'est même l'attentat le plus meurtrier de l'histoire récente du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété 3 jours de deuil national.
Pierre Pinto pour RFI. On va continuer à vous parler d'actualité africaine un peu plus tard dans le programme avec Frédéric Souto. Mais pour le moment, on se transporte aux États-Unis où le président Barack Obama a défendu sa décision de commuer la sentence de Chelsea Manning, disant qu'elle avait déjà été sévèrement punie. Elle sera donc libérée en mai. Le président Obama a dit que sa peine de 35 ans pour avoir donné des informations classifiées à WikiLeaks était disproportionnée. Il a précisé que sa décision n'avait rien à voir avec le tweet de Julian Assange disant qu'il accepterait de se faire extrader aux États-Unis si le pays pardonnait Chelsea Manning.
I don't pay a lot of attention to Mr. Assange's tweets, so that wasn't a consideration in this instance, and I refer you to the Justice Department for any criminal investigations, indictments, extradition issues that may come up with him.
Le président américain Barack Obama. Et on continue de parler du président américain qui a donné sa dernière conférence de presse en tant que chef d'État. Il a dispensé ses conseils à Donald Trump. Le reportage d'Anne-Marie Capomaccio.
Le premier conseil de Barack Obama à Donald Trump, ne pas s'entourer de conseillers qui pensent comme vous, confronter les points de vue et surtout respecter la liberté de la presse, ce que le président élu a pour l'instant un peu de mal à accepter.
A free press.
Une presse libre est essentielle au fonctionnement de ce pays. Ça ne peut pas marcher si les citoyens ne sont pas bien informés. Notre démocratie a besoin de vous.
La réalité vous ramène sur terre quand vous êtes président des États-Unis, a poursuivi Barack Obama. Sans avoir l'air d'y toucher, il a tout au long de cette conférence dispensé ses conseils à Donald Trump. Sur la Russie, oui, l'Amérique a besoin de bonnes relations avec Moscou, mais les Russes ont envahi l'Ukraine et c'est pour cela que les sanctions sont en place. Sur le Proche-Orient, attention, toute décision américaine a un effet démultiplié. Prudence sur le transfert de l'ambassade à Jérusalem, vous n'en avez peut-être pas mesuré toutes les conséquences. Enfin, si le président sortant affirme qu'il ne briguera plus de mandat, Barack Obama ne s'interdit pas en tant que citoyen de s'exprimer publiquement sur les sujets qui lui tiennent à cœur, les libertés fondamentales, le droit de vote, la discrimination et le droit des migrants. Les cartons sont prêts, la famille Obama quitte la Maison-Blanche demain matin.
Anne-Marie Capomaccio pour RFI. Le président élu américain Donald Trump, dont la cérémonie d'investiture a lieu demain, a dit en entrevue qu'il n'aimait pas utiliser Twitter, mais qu'il n'avait pas le choix pour contrer la presse qu'il qualifie de malhonnête. On l'écoute sur Fox News.
I don't like tweeting. I have other things I could be doing. But I get very dishonest media, very dishonest press. And it's my only way that I can counteract. Like, for instance, when John Lewis said, you know, he's never done it before where he skipped an inauguration. Well, he has. It turned out to be a lie. So I'm able to say that. Now, if the press were honest, which it's not, I would absolutely not use Twitter. I wouldn't have to.
Le président élu américain Donald Trump. Le vice-président américain Joe Biden a affirmé que la Russie était la plus grande menace à l'ordre mondial et a dit que les États-Unis doivent s'allier avec l'Europe contre Vladimir Poutine. Durant un discours au sommet économique de Davos, il a averti les leaders mondiaux que Vladimir Poutine essaiera certainement d'influencer des élections en Europe cette année.
It will occur again, I promise you. And again, the purpose is clear. To collapse the liberal international order. Simply put, Mr. Putin has a different vision of the future, one in which Russia is pursuing across the board.
It seeks to return to a world where the strong impose its will through military might, corruption and criminality, while weaker nations have to fall in line.
Le vice-président américain Joe Biden. 2016 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les chiffres de la NASA montrent que les températures de 2016 étaient 0,07 degrés plus chaudes qu'en 2015. El Niño est partiellement en cause, mais le plus grand responsable est la pollution créée par l'activité humaine. On écoute le docteur Gavin Schmidt de la NASA.
2015 was the warmest year on record up until now, so 2016 has just beaten that, and it's beaten that by about 0.1, 0.12 degrees Celsius, which doesn't seem like a lot, but in terms of the year-to-year variations, it's actually huge.
Gavin Schmidt de la NASA. Dans quelques instants, on passe au sport avec Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet en direct de l'Open d'Australie, mais juste avant, c'est la météo. À Perth aujourd'hui, c'est un maximum de 26 degrés, Adélaïde 36, Melbourne 26, Hobart 18, Canberra 28, Wollongong et Newcastle 22 degrés, Sydney 23, Brisbane et Cairns 33 et à Darwin 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 19 janvier. Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Mike Baird, se retire de la vie politique. Au Mali, le groupe terroriste Al Mourabitoun a revendiqué l'attaque du camp de Gao qui a fait une soixantaine de morts. Et le président américain Barack Obama a donné sa dernière conférence de presse en tant que chef d'État.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées.